Audiolib présente Napoléon ou le mythe du sauveur de Jean Tullard, lu par Hugues Martel. D'ici à 50 ans, il faudra refaire l'histoire de Napoléon tous les ans. Stendhal, Vie de Napoléon, préface. Les journaux de l'époque, Le Moniteur, Gazette Nationale, Le Journal de Paris, etc., sont très intéressants pour étudier la figure napoléonienne. Et les mémoires des contemporains, quoique souvent sujets à caution, constituent une mine de renseignements. Les écrits de Napoléon, correspondance et autres, et les archives nationales sont également des sources importantes. Mais surtout, Napoléon Bonaparte a inspiré plus de livres qu'il ne s'est écoulé de jours depuis sa mort. Cette inflation n'est pas un phénomène strictement national ni même européen. Pour une bibliographie exhaustive, vous pouvez vous reporter à l'édition papier de cet ouvrage, paru aux éditions Fayard. Introduction. Le choix. Quand, à la fin de la flûte enchantée, les légions de la Reine de la Nuit sont vaincues dans le Temple du Soleil par les troupes de Sarastro, c'est la victoire des Lumières sur l'obscurantisme que prophétise Mozart quelques mois avant sa mort. Nous sommes en 1791. La Révolution française est commencée, mais le succès des Lumières demeure incertain. 10 ans plus tard, alors que l'œuvre de Mozart est enfin jouée pour la première fois à Paris, le triomphe des idées nouvelles paraît plus assuré. Mais dans le public qui applaudit la flûte, transformée en mystère d'Isis, livret de Morel, arrangement de Lacny, combien de spectateurs discernent en Sarastro les traits du général Bonaparte, devenu premier consul de la République et dernier rempart des conquêtes révolutionnaires. Conjonction inattendue d'un individu et d'un bouleversement politique. D'un côté, un officier rêveur est distrait au service d'une monarchie qu'il sert en mercenaire, une mentalité d'exilé, une tendance suicidaire, un ennui promené de garnison en garnison. De l'autre, la révolution, ou peut-être les révolutions, à considérer la diversité des objectifs poursuivis. Chateaubriand l'a observé. Ce sont les nobles qui ont porté les premiers coups au vieil édifice monarchique. À la faveur de la crise des finances royales, ils ont tenté de remettre en cause les principes de l'absolutisme. Tel était l'objectif assigné, plus ou moins ouvertement, à la réunion des États généraux. La revanche de la fronde, la fin des humiliations politiques, le retour aux lois fondamentales qu'invoquait déjà le cardinal de Retz dans ses mémoires, puis Fénelon dans ses dernières œuvres, voilà ce que souhaitait au fond d'elle-même la noblesse libérale derrière les grands mots inspirés par des philosophes trop vite lus, la guerre d'indépendance d'Amérique à laquelle un Lafayette et un Noailles avaient généreusement participé, ou les brochures d'un marginal comme le comte d'Entraigues. Le 14 juillet et la Grande Peur ont balayé les illusions. La boîte de Pandore imprudemment ouverte, l'ancienne noblesse a été engloutie. Les titres ont été supprimés, les droits féodaux abolis, les propriétés confisquées. C'est qu'un autre soulèvement a pris le relais. À la fronde succède la jacquerie. Ces mouvements désordonnés de paysans voués jadis à l'écrasement embrassent à nouveau une grande partie de la France et prennent un caractère original. De la révolte anarchique, on est passé à la révolution. Une prise de conscience s'opère. Des objectifs précis apparaissent dans les cahiers de doléances. La fin du régime féodal et l'appropriation du sol. La révision des terriers, entreprise par une noblesse de plus en plus endettée, a joué un rôle de catalyseur. Les mots d'ordre politique sont en revanche inexistants. On s'insurge contre le seigneur, non contre le roi.